pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Marc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le 26e dimanche. Jean déclare à Jésus :
Maître, nous avons vu quelqu'un qui expulse des démons en ton nom. Nous l'empêchions parce qu'il n'était pas de notre suite.
Mais Jésus dit :
Ne l'empêchez pas. Il n'est personne qui fasse un miracle en mon nom et puisse aussitôt parler en mal de moi. Car qui n'est pas contre nous est pour nous. Qui vous donne à boire un verre d'eau au nom de ce que vous êtes à Christ, amen, je vous dis qu'il ne perdra pas sa récompense. Qui sera un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui ont foi en moi, il est meilleur pour lui qu'une meule d'âne lui soit mise autour du cou et qu'il soit jeté à la mer. Si ta main est pour toi occasion de chute, coupe-la. Il est meilleur pour toi d'entrer manchot dans la vie plutôt que de t'en aller avec tes deux mains dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Et si ton pied est pour toi occasion de chute, coupe-le. Il est meilleur pour toi d'entrer boiteux dans la vie plutôt que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. Et si ton œil est pour toi occasion de chute, arrache-le. Il est meilleur pour toi d'entrer avec un seul œil dans le règne de Dieu plutôt que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne où leur vermine ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Que voilà un texte terrible, où il semble difficile à première lecture de reconnaître le Christ miséricordieux. Quel lien y a-t-il entre ces enseignements qui semblent dispersés?
Alors regardons d'abord le contexte. Nous sommes dans la seconde partie du récit évangélique de Marc. La première partie a raconté la prédication de Jésus en Galilée. La seconde va décrire la marche vers la passion, cette passion qui va se dérouler à Jérusalem. Et cette marche est scandée par trois annonces de la mort de Jésus. Et à chaque fois, à chaque annonce, va correspondre une description de l'incompréhension des disciples, une description qui va être suivie par un enseignement de Jésus. Et notre texte, il se situe dans la suite de la seconde annonce. Les disciples se préoccupent surtout de savoir qui est le plus grand dans le règne de Dieu. Et Jésus va en profiter pour leur donner comme une leçon de choses à travers l'accueil du jeune serviteur. L'entretien se déroule à la maison, nous dit le texte, probablement celle de Simon-Pierre à Capharnaüm, là où Jésus semble revenir après chacune de ses missions en Galilée. Jésus rassemble dans cette maison le noyau de ses disciples, ceux auxquels il confiera plus tard la succession de sa mission. C'est là, bien souvent, qu'il donne un enseignement plus complet que celui qui est donné aux foules.
Quel lien y a-t-il entre ces divers enseignements?
Eh bien, Marc rassemble ici une suite de paroles de Jésus, une suite qu'il réunit par ce qu'on appelle des mots crochets. Le procédé était alors courant chez les enseigneurs, car ce procédé favorisait la mémorisation des textes, la mémoire. Après Pâques, au début de la communauté chrétienne, l'enseignement va continuer à être oral et donc pendant de nombreuses années, la transmission de l'Évangile devra utiliser les procédés qui permettent de mémoriser facilement cet enseignement. Il faut aussi rappeler que la catéchèse de Jésus prend souvent forme à partir de questions qui lui sont posées, et donc questions et réponses s'enchaînent les unes aux autres. Eh bien, on a ici une bonne illustration de cette méthode. Le texte d'aujourd'hui prend en effet suite après l'enseignement mimé de Jésus sur l'accueil. Un enseignement mimé, en effet, Jésus prend un jeune garçon, l'embrasse et dit « Qui accueille un jeune garçon comme celui-là, en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Et l'expression « en mon nom » va amener la question de l'exorciste qui lui agit au nom de Jésus. On voit qu'il y a là donc le mot « crochet »,« en mon nom », »,« au nom de ». Et cette question de Jean sur l'exorciste semble d'ailleurs avoir interrompu l'enseignement de Jésus sur l'accueil. Alors cet enseignement va reprendre au verset 41 qui parle, lui, du verre d'eau donné au disciple qui est accueilli « au nom de ce qu'il est à Christ ». Le mot « crochet » toujours. Le verset qui suit, le verset 42, va traiter du scandale des petits. Alors on ne voit plus très bien le lien. Mais si l'on regarde le verset dans le texte parallèle de Matthieu, eh bien il est dit « qui fait boire un verre d'eau à un seul de ses petits, au nom de ce qu'il est disciple ». On retrouve encore, donc, avec le mot « petit », au nom de, le mot « crochet ». Et enfin, bien, c'est le mot « scandale » qui va être le mot « crochet » pour les versets 42 à 48.
Personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt après parler en mal de moi.
Eh bien, rappelons d'abord le sens fort de l'expression en mon nom dans le langage biblique. Le nom, cela exprime l'identité de la personne, ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Ainsi, le nom Yeshua, qu'on a francisé en Jésus, signifie Dieu sauve. Quand l'identité de la personne va changer, eh bien son nom peut changer aussi. Ainsi, Simon, lorsqu'il devient le leader des 12, va être nommé Kephas, c'est-à-dire roc. On peut peut-être bien comprendre cela en pensant au sens des surnoms dans la langue française. Ces surnoms qui sont devenus des noms de famille, la tendresse, la bonté, le grand. Le surnom décrivait à l'origine la personne auquel il était donné. Mais agir au nom de quelqu'un, c'est le représenter, c'est-à-dire le rendre présent. Et ici, il s'agit d'agir dans le nom de Jésus, c'est-à-dire d'agir conformément à sa volonté, à son projet. Agir en communion avec lui, c'est agir avec un même esprit, voire même agir selon son esprit. Eh bien ici, Jésus manifeste son accord à ce que quelqu'un fasse le bien en son nom. C'est-à-dire en le rendant présent, lui, même si cela se fait en dehors du groupe des disciples. Oh, bien sûr, Jésus a choisi des apôtres qu'il envoie et qu'il enverra surtout pour agir comme ses propres représentants, afin que son évangile soit proclamé. Mais la réalisation du règne de Dieu sur la terre n'appartient pas aux seuls disciples de Jésus. La réaction de Jean, il dit « nous l'avons empêché ». Eh bien, cette réaction est conforme à ce qu'on sait de Jean et de son frère Jacques. Ils étaient appelés les fils du tonnerre.
S'étant mis en route, ils entraient dans un village samaritain pour tout lui préparer. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il faisait route vers Jérusalem. Ce que voyant, les disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer ?»
Mais la réaction reflète aussi ce que nous savons de la société juive du temps. Elle était en effet divisée en de nombreux mouvements qui s'opposaient l'un à l'autre. Les pharisiens ne supportaient pas la vision des zélotes sur la façon de libérer le pays du joug romain. Les esséniens s'opposaient farouchement aux sadducéens à propos du temple et des grands prêtres. La faiblesse des juifs face aux romains s'expliquera en partie par ces divisions internes. Eh bien, Jésus veut surpasser ces divisions afin de réaliser l'unité de son peuple. On a sans doute un enseignement semblable dans un passage du récit évangélique de Jean au chapitre 10.
J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur.
Les premières communautés chrétiennes vont connaître, elles aussi, des risques de division. C'est ce que témoignent les lettres de Paul. Écoutons un passage de la première lettre aux Corinthiens.
« J'entends par là que chacun de vous dit, « Moi, je suis à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi au Christ. » Lorsque vous dites l'un, « Moi, je suis à Paul, et l'autre, moi à Apollos, » n'est-ce pas là bien humain? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs, par qui vous avez embrassé la foi, et chacun d'eux selon ce que le Seigneur lui a donné? Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance.
Qui n'est pas contre nous, dit Jésus, est pour nous. En effet, celui qui n'agit pas contre l'Évangile, celui qui ne cherche pas à diviser, mais au contraire à unir, eh bien celui-là agit dans le sens de l'œuvre de Jésus. Il travaille lui aussi à l'avènement de ce règne de Dieu sur la terre. Jésus parlera ailleurs de ceux qui n'agissent pas selon son esprit.
Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse.
Mais attention, il ne s'agit pas là simplement d'un accord extérieur. Il s'agit d'une communion de pensée et d'action. En effet, Jésus montrera en d'autres circonstances que certains sont, de fait, en dehors de cette communion, même s'ils font partie du groupe de ses auditeurs.
Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ainsi, tout arbre bon produit de bons fruits, tandis que l'arbre gâté produit de mauvais fruits. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait bien des miracles? » Alors je leur dirai en face « Jamais je ne vous ai connu. »
Oui, n'est-ce pas en ton nom? Eh bien, même si c'est fait en ton nom, cela n'est que d'une façon extérieure et non pas d'une véritable communion. Ceux, au contraire, qui contribuent à bâtir le règne de Dieu sur notre terre, ce sont ceux qui agissent selon la volonté, le désir profond de Jésus et de Dieu. Et cette volonté, ce désir profond, c'est la communion entre tous les humains. Cet enseignement de Jésus vaut toujours pour nous, les disciples d'aujourd'hui. On peut être en effet chrétien par le baptême et par la pratique de l'Eucharistie, et pourtant ne pas travailler à la progression du règne de Dieu ici et maintenant. Et par contre, on peut aussi être membre d'une autre confession religieuse. On peut même être un croyant et pourtant agir selon l'esprit de Jésus et de son évangile. Là où des gens vivent l'amour vrai, la bonté généreuse, une solidarité sans frontières, là est présent l'esprit de Dieu. Et là se trouve réalisée la fraternité telle qu'elle est voulue par Dieu, se trouve réalisée son règne. Oh, hélas, certains athéistes peuvent s'expliquer parce que les chrétiens présentent un visage de Dieu qui est défiguré. Le règne de Dieu dépasse les frontières de l'Église, et heureusement qu'il en est ainsi, car il y aura tant de milliards d'êtres humains qui n'auront pu avoir une vraie connaissance du Dieu de Jésus. Soit parce qu'ils sont nés avant que Dieu ne se révèle à travers Jésus de Nazareth, soit parce qu'ils naissent aujourd'hui dans des pays où la tradition religieuse est majoritairement autre, soit musulmane, soit bouddhiste. Tous ceux-là qui vivent selon l'esprit de Jésus sont spirituellement unis à lui, unis au Christ.
Qui vous donne à boire un verre d'eau au nom de ce que vous êtes à Christ. Amen, je vous dis qu'il ne perdra pas sa récompense.
On peut se demander si l'expression « au nom de ce que vous êtes à Christ » vient de Jésus lui-même ou bien si elle appartient au langage des premiers chrétiens. Mais peu importe, la leçon à retenir est la même. Celui qui appartient à Christ est quelqu'un qui est un humble, une personne humble selon les valeurs du monde, et qui doit être comme son maître, un serviteur. Donner un verre d'eau est un geste tout simple, mais il devient un geste totalement gratuit quand il est justement accompli pour quelqu'un qui est un petit, quelqu'un qui passe aux yeux du monde pour un être sans intérêt. Le récit parallèle de Matthieu a d'ailleurs précisé qui est le disciple. Il parle des petits.
Qui donnera à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche, à l'un de ces petits, pour son nom de disciple. Il ne perdra pas sa récompense.
Et dans la parabole du jugement dernier, toujours en Matthieu, au chapitre 25, Jésus parlera de ceux qui donnent à boire à l'assoiffé, qui sont encore des petits, ces assoiffés.
Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.
Jésus ne peut s'identifier qu'à des disciples qui se font véritablement petits, qui sont des serviteurs, comme ce jeune garçon de tout à l'heure. Pourquoi ? N'est-ce pas parce que c'est l'unique façon de sauver la gratuité de la relation humaine ? Donner à boire à ceux qui ont des titres à recevoir ce geste, un patron, un ami, un riche, à ceux-là d'ailleurs, on ne donne pas seulement que de l'eau. Eh bien, donner à boire à ces gens-là, cela peut toujours être perçu comme un geste intéressé. On fait ce geste parce qu'on est payé pour, on fait ce geste parce que l'autre pourra nous le rendre, on fait ce geste parce que cela rapportera de l'attention, de l'amitié en retour. Mais les gestes qui sont faits envers un jeune serviteur, envers un petit, ne sont pas des gestes dus, et ils ne provoqueront aucun retour, aucun échange. Ils se situent donc sur le plan de la gratuité de l'amour, qui est la longueur d'onde de Dieu. Alors comment comprendre que celui qui accomplit ce geste ne perdra pas sa récompense? Eh bien, on retrouve ici l'enseignement qui suit les Béatitudes.
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous?
Oui, celui qui donne en espérant un retour, celui-là a déjà reçu son dû des humains, sa consolation. Seul celui qui donne sans rien espérer en retour aura une récompense, mais une récompense en Dieu. Comme le dit le proverbe, « Qui donne gratuitement aux pauvres prête à Dieu qui paiera le bienfait de retour. » Ce qu'une femme de chez nous traduisait, « Qui donne aux pauvres prête à Dieu, mais c'est la vie qui le lui rend. » Oui. La vie lui donnera une récompense qui ne sera pas un dû, un retour équivalent au don. Dieu rendra, oui, généreusement, surabondamment, mais quand il le voudra et non pas pour acquitter une redevance. Dieu d'ailleurs ne rend pas directement le plus souvent. Ce qu'il donne, il le donne par la vie quotidienne et donc d'une façon anonyme. Et ainsi cela ne peut donc être comptabilisé comme un dû. Seuls les gestes de gratuité sont des gestes faits selon l'Esprit de Dieu et seuls ils sont porteurs de vie divine, comme le dit cet autre texte de Marc au chapitre 10.
Personne n'aura laissé maison, frère, sœur, mère, père, enfant et champ à cause de moi et de l'Évangile sans qu'il ne reçoive au centuple maintenant, en ce temps présent, maison, frère, sœur, mère, enfant et champ, et dans le monde qui vient, la vie éternelle.
Ainsi, les gestes simples sont-ils plus sûrement des gestes vraiment gratuits? Et les gestes vraiment gratuits sont-ils porteurs de vie divine? Et cela est peut-être plus facilement découvert par les gens qui sont dépourvus de titres et d'argent. N'est-ce pas cette vérité qui fera jaillir cette belle prière de Jésus?
Je te loue, Père, Seigneur, du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout-petits. Qui sera un scandale pour un de ces petits qui ont foi en moi, il est meilleur pour lui qu'une meule d'âne lui soit mise autour du cou et qu'il soit jeté à la mer.
Eh bien voilà maintenant une suite de phrases qui sont reliées par le mot scandale. Dans le langage de la Bible, le scandale n'est pas d'abord un mauvais exemple ou un fait révoltant. L'image que traduit ce mot est celle d'un obstacle, c'est ce qui fait chuter quelqu'un. Et donc pris dans le sens figuré, ce sera tout ce qui fait tomber quelqu'un en l'entraînant dans un chemin qui n'est pas celui du bien et de l'amour. C'est ainsi qu'on peut traduire scandale par occasion de chute. Donnons un exemple. Lorsque Pierre cherche à détourner Jésus du choix qu'il a fait de donner volontairement sa vie et de la donner en se livrant aux chefs religieux qui vont l'arrêter et le condamner, Jésus va lui répondre avec une grande vivacité.
« Retire-toi derrière moi, Satan. Tu es pour moi un scandale. » Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des humains.
Oh, certes, Pierre ne peut supporter l'idée de la mort de son maître bien-aimé. Mais dans cette réaction de Pierre, Jésus voit plus profondément ce qui est en jeu, c'est la valeur du pardon. Face aux adversaires de Jésus et au mal qu'ils veulent lui faire, Pierre croit davantage à la colère de Dieu, cette colère qui va être capable de punir les malfaisants. Il croit davantage à cette colère de Dieu qu'au pardon de Jésus qui, lui, va dire l'amour et le dire jusqu'au don de sa vie sur la croix. Le récit des tentations au désert nous dit que Jésus a été tenté de douter de la force du pardon pour vaincre le mal et qu'il a même pu envisager les moyens de la violence pour lutter contre le mal, des moyens qui sont ceux du monde et du malin. Jésus va donc dire avec force l'importance de ne pas faire tomber, de ne pas faire chuter, de ne pas scandaliser son frère ou sa sœur. Paul, dans ses lettres, en parlera à propos des viandes utilisées pour les sacrifices aux dieux dans les temples païens. Ces viandes se retrouvaient vendues par les prêtres païens. Et un chrétien se posait la question, a-t-on le droit d'acheter de telles viandes? Alors certains disaient non, considérant que manger ces viandes signifiait qu'on croyait aux idoles. Paul, lui, dira que puisque les idoles n'existent pas, on peut donc manger de ces viandes. Mais, il ajoute, si notre attitude doit entraîner celui qui mange à perdre sa foi dans le vrai Dieu, si donc cela doit le faire chuter, le scandaliser, alors il faut s'abstenir d'en manger.
Il n'y a pour nous qu'un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur Jésus. Mais prenez garde que cette liberté qui est la vôtre ne devienne pas scandale, occasion de chute pour les faibles. En péchant ici contre vos frères et en blessant leur conscience qui est faible, c'est contre Christ que vous péchez.
Jésus, lui, parle du scandale qui fait tomber le petit qui a foi en lui. Il est sans doute plus pervers de s'attaquer à un petit qu'à quelqu'un de fort. Mais ce petit qui a foi est surtout l'image du véritable disciple. Le véritable disciple qui doit toujours être le serviteur de ses frères. Alors on pourrait donc faire dire à Jésus qui scandalise et fait tomber un petit, c'est comme s'il voulait me faire tomber moi-même. Le geste fait à l'égard du petit, de l'humble, est un geste fait à l'égard de Jésus. Et cela atteint le cœur de Dieu qui souffre, de tout ce qui brise la communion entre ses fils et ses filles. Briser volontairement la confiance entre un fils de Dieu, entre une fille de Dieu et le Père, c'est détruire également la communion entre soi-même et le Père. Alors, on comprend mieux la sévérité de la mise en garde.
Il est meilleur pour lui qu'une meule d'âne lui soit mise autour du cou et qu'il soit jeté à la mer.
Il s'agit ici de cette meule de grande taille qui est employée pour moudre le grain. Un homme ne pouvait pas la faire tourner à la main et c'est donc l'âne qui était utilisée. L'image empruntée par Jésus fait peut-être allusion au supplice de la noyade qui était alors employé par les Romains pour les condamner à mort. On jetait à la mer le condamné en lui attachant cette meule autour du cou. Eh bien, Jésus enjoint de tout faire pour ne pas faire tomber son frère. Coupe ta main, coupe ton pied, arrache ton œil. Oh, les propos sont brutaux et les chrétiens ne les ont jamais pris à la lettre. Jésus ne demande pas de se mutiler, mais ces expressions drastiques qu'il utilise disent combien il est douloureusement saisi par le scandale, atteint au plus profond de son être. Et cela parce que le scandale peut faire perdre le bien absolu qu'est la vie divine. Il brise la vie véritable dans le cœur de l'être humain. Il nous empêche de réaliser notre vraie vocation, qui est de devenir fils, fille de Dieu. Ces expressions, elles doivent nous dire tout le tragique d'une existence qui se sépare de la source de vie et qui se sépare alors du vrai bonheur, du bonheur qui dure en vie d'éternité. Le scandale est un malheur tragique et il l'est tant pour celui qui subit le scandale que pour celui qui l'occasionne. Pour l'un comme pour l'autre, cela aboutit à la destruction de leur communion avec Dieu. Et Jésus nous dit donc qu'il faut aller jusqu'à sacrifier un peu ou parfois même le tout de sa vie physique pour sauver la vie spirituelle, la vie divine.
Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie?
Des phrases aussi fortes dans la bouche de Jésus ne devraient-elles pas nous alerter? Nous sommes, en effet, si peu conscients de cette beauté divine qui est en nous. Et Jésus lui-même donnera sa vie pour sauver cette présence de l'amour divin en lui-même. Devant le rejet dont il sera victime de la part de l'élite religieuse, devant l'abandon, le reniement de ses disciples, Jésus aurait pu se révolter et condamner ceux qui le reniaient, appeler sur eux la colère de Dieu. Il a préféré continuer à donner son amour à tous, croire en la force de la bonté et pardonner au prix de sa vie physique.
Plutôt que de t'en aller avec tes deux mains dans la géhenne.
La description de la géhenne vient dire, mais comme par contraste, toute cette importance de la communion avec Dieu. La géhenne, c'était une vallée au pied de la colline du temple de Jérusalem à l'époque de Jésus. Elle sert de décharge publique, les ordures s'y accumulent et elles brûlent, nuit et jour. Ainsi, cette vallée peut évoquer un lieu où le feu ne s'éteint pas, et elle devient un peu comme le symbole du séjour de l'enfer et de ses tortures. Cela évoquait le sort réservé à ceux qui s'étaient fermés à l'amour de Dieu. On se souvient de la parabole de Lazare et du riche au chapitre 16 de Luc.
Au séjour des morts, comme il était à la torture, le riche leva les yeux et s'écria « Abraham, mon père, aie compassion de moi !» et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffle le supplice dans ses flammes.
Quel sens faut-il donner à ces images? Dieu punira-t-il avec tant de sévérité les pécheurs? Ou ne faut-il pas voir là, mais comme l'envers de l'amour fou de Dieu? L'amour de Dieu est si grand, le bonheur de la communion divine si intense, que ceux qui s'en prient volontairement sont dans le plus grand des malheurs, qu'ils connaissent la détresse la plus profonde. Le langage humain est si pauvre pour décrire une telle détresse qu'il se sert des images qu'il connaît. Mais celles-ci sont évidemment terriblement loin de la réalité. Ces images d'enfer évoquent là où peut nous conduire notre liberté, car la grandeur de notre liberté est telle qu'elle peut nous conduire à faire notre propre mort spirituelle. Devant l'incroyable amour de Dieu qui nous appelle à vivre de lui et par lui, nous avons en effet la liberté de dire oui ou de refuser. Le malheur dénoncé par Jésus est de nous fermer à l'amour, de refuser cette vie éternelle d'amour. Ce qu'on appelle la justice de Dieu, n'est-ce pas seulement la conséquence de notre liberté qui entraîne dans la mort celui qui se sera totalement fermé à l'amour? Mais, redisons-le toujours, Jésus nous dit que ce refus pourra toujours, toujours, toujours se changer en accueil de la grâce toute gratuite de Dieu. Comme le père de l'enfant prodigue, Dieu ne peut cesser d'espérer en nous, il ne peut cesser de nous attendre pour vivre avec nous son amour infini. Terminons par ce cri d'espérance de l'apôtre Paul.
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment, avec son fils, ne nous donnerait-il pas tout? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, notre Seigneur. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
256-4110.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean B. Duchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.